France Inter, le 13-14, Marion Loup.
Amazing grace, how sweet the sound.
C'était l'un des événements de l'année 2021, l'investiture de Joe Biden, dirigeant démocrate des États-Unis, après 4 ans de présidence Trump. Un an après, l'état de grâce s'est vite dissipé. Joe Biden a rencontré des difficultés, parfois déçu, débâcle en Afghanistan, plan de relance partiellement bloqué, inflation, crise des sous-marins, élection partielle perdue, popularité en baisse, jusqu'à cet échange avec un électeur il y a quelques jours à la télévision pour Noël.
I hope you have a wonderful Christmas.
Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well.
Merry
Christmas and let's go Brandon.
Let's go Brandon, I agree.
Joyeux Noël et Let's go Brandon, dit ce citoyen américain. Let's go Brandon, ça veut dire vas-y Brandon. C'est aussi une façon codée pour les anti-Biden de dire fuck Joe Biden, va te faire foutre Joe Biden. Pour le bilan et l'état des lieux de cette présidence démocrate aux États-Unis, nous sommes aujourd'hui avec Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, responsable à l'IFRI pour l'Amérique du Nord. Vos questions, chers auditeurs, sur les États-Unis, 01 45 24 7000. Laurence Nardon, ça fait presque un an que Joe Biden est président des États-Unis. Quel premier bilan peut-on tirer de cette présidence ?
Le bilan, il est quand même assez en demi-teinte pour lui, j'ai envie de dire malheureusement. Il a un taux d'approbation de 40% à peu près, ce qui est très très bas pour un président américain. Enfin, plus haut que Trump à la même époque, mais quand même relativement bas. Et je pense que la raison, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes. Il avait promis de faire un apaisement total du pays après Trump. Et puis en fait, il a quand même beaucoup d'opposition. Il a une marge de soutien très faible dans l'opinion publique américaine. Parce que il fait face non seulement à l'opposition républicaine, qui est quand même vent debout contre lui, elle est très trumpisée, mais même au sein de son propre parti, il y a un courant de gauche qui se méfie beaucoup de lui parce qu'il le juge comme un modéré, ce qu'il est à mon avis, mais aussi un courant centriste du Parti démocrate, donc son propre parti, qui se méfie aussi de lui parce que ses projets de loi qu'il porte depuis un an sont à leurs yeux beaucoup trop à gauche, beaucoup trop dépensiers, voire éventuellement socialistes, entre guillemets, ce qui est un très gros mot aux États-Unis. Et donc, sa marge de soutien dans l'opinion est assez faible. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui.
La quadrature du cercle, en quelque sorte, pour Joe Biden. À ce sujet, question d'Éric au Standard de France Inter. Bonjour Éric.
Oui, bonjour.
Votre question à Laurence Nardon.
Ma question, c'est que peut faire Biden que n'a pas fait Obama? Parce qu'on sait qu'il a une majorité qui est relativement réduite. Hein. On l'a bien vu, là, il suffit qu'il y en ait un qui fasse défection d'un côté et puis ça bascule. Voilà, donc j'aurais voulu savoir ce que pouvait faire Biden que n'a pas fait Obama. Et puis je pense quand même aussi, par rapport au dossier de Julian Assange, peut-être arrêter les persécutions.
Alors, Laurence Nardon, dans le contexte que vous nous avez décrit, qu'est-ce que Biden peut faire?
Pour la première question d'Éric, qu'est-ce qu'il peut faire de différent d'Obama? En fait, il est quand même arrivé avec un programme très différent d'Obama. Parce qu'Obama, il faisait partie vraiment de la vieille école américaine, enfin, l'école économique qui était en place depuis les années 80, c'est-à-dire que c'était un libéral, au sens français du terme, hein, un libéral économique, donc l'État doit pas en faire trop, on doit pas trop dépenser, etc. Biden, même s'il a fait campagne comme un modéré, il est arrivé avec son projet énorme de dépenses pour les infrastructures, pour l'environnement, pour remettre en place l'ascenseur social américain. C'est ce projet Build Back Better. C'est ce fameux plan dont il a fait voter déjà une moitié péniblement,
et
l'autre moitié
va être
encore plus dur.
Qui est partiellement bloqué. C'est ça, il y a une chance que ça passe.
Écoutez, il y a ces fameux sénateurs démocrates centristes qui lui mettent des bâtons dans les roues, donc ça va être difficile à passer. En même temps, il a une grande alliée à la Chambre qui est Nancy Pelosi, la chef des démocrates de la Chambre, et qui est très très habile pour faire voter les projets de loi. Donc on va voir si elle s'en sort. Mais ce que je veux dire sur le fond, c'est que Biden, il est arrivé avec un projet qui est vraiment très social et de dépenses de l'État pour remettre en route les routes, les infrastructures, les aéroports, etc. Tout ça, ce qui tombe en ruine aux États-Unis, les réseaux électriques, etc. pour refaire partir la prospérité de la classe moyenne américaine. Et donc ça, c'est vraiment un changement d'époque aux États-Unis. C'est la fin du cycle libéral de Reagan et le début d'un nouveau cycle un peu plus keynésien, si vous voulez, avec de la relance pour faire marcher l'économie. Et donc, je réponds à Eric, là, il y a quelque chose de très très différent par rapport à Obama que Biden essaye de faire. Après, il y a des problèmes, mais je vais peut-être vous laisser les questions suivantes.
Mais le piège, effectivement, le piège inattendu sur le plan économique, c'est l'inflation.
Exactement. Alors, ce qui est vraiment tragique pour le projet de Biden, c'est qu'au moment où il y a une certaine partie de la population américaine qui est prête à en finir avec ce fameux libéralisme économique pour relancer la machine à coup d'investissements publics fédéraux, eh ben, boum, il y a de l'inflation qui arrive. 6% en 2021, un taux qui s'était pas vu depuis les années 80 et les gens tremblent parce que l'inflation, ça veut dire que votre épargne perd de sa valeur, enfin c'est très grave. Et au moment même où on pourrait avoir une relance économique dans le pays qui s'adresse un peu à tout le monde, l'inflation risque de faire hésiter les législateurs, donc ceux qui sont en train d'hésiter justement à voter ces fameux plans Build Back Better.
L'inflation qui est au-dessus de 5% depuis déjà 7 mois. Question aussi économique d'Étienne au Standard de France Inter. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour mesdames. La question est très simple. Donc moi j'écoute le journal de France Inter depuis très très longtemps, le journal de 13h. Quand c'était la présidence de l'ancien président Trump, donc il était très favorable aux entreprises américaines, même si ça polluait à fond, il était très favorable. Donc, moi je voudrais savoir quelle est l'incidence de l'élection de Joe Biden sur les bourses américaines et sur les bourses européennes et françaises en particulier, s'il vous plaît.
Merci Étienne. Laurence Nardon, il est vu comment sur les marchés, Joe Biden ?
Je suis pas sûre que ça ait un impact négatif parce que les bourses sont au plus haut en ce moment. En même temps, là, on sort un tout petit peu de mon champ de compétences. Mais je pense qu'il n'y a pas d'impact négatif pour répondre à Étienne.
Un autre sujet, une autre difficulté de Joe Biden, c'est la Covid. 820 000 morts de la Covid depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Joe Biden est arrivé en disant qu'il allait rompre avec une gestion erratique de Donald Trump. En fait, plus de la moitié des victimes dont je parlais datent de sa présidence à lui. Est-ce qu'il a raté son coup, en quelque sorte ?
Alors ça, c'est vraiment dur pour lui, parce qu'ils ont eu, aux États-Unis, une vague Delta beaucoup plus forte que chez nous, cet été. Après quoi, il y a la vague Omicron qui démarre, pareil que chez nous, donc ils ont beaucoup de mal. On peut blâmer Biden, pas complètement, parce que d'abord, il a une attitude beaucoup plus rationnelle, il écoute les scientifiques, enfin, il est beaucoup moins imprévisible que Trump ne l'était sur ce dossier il y a un an. Et en même temps, il peut pas faire grand-chose parce que aux États-Unis, c'est un pays fédéral et donc la plupart des décisions, par exemple de confinement, d'ouverture des écoles, etc., elles sont prises par les gouverneurs des 50 États. Et lui, il peut depuis la Maison Blanche exhorter les uns et les autres à se faire vacciner, mais il a pas beaucoup d'autorité constitutionnelle en la matière. Voilà. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, donc dans les 50 États, les choses se passent différemment, mais beaucoup d'écoles sont restées fermées vraiment depuis des mois et des mois, ce qui fait que les parents peuvent pas aller travailler. Enfin, c'est très compliqué. Un dernier point là-dessus aussi, c'est que c'est un sujet qui, comme tous les sujets aux États-Unis, est extrêmement polarisé entre démocrates et républicains. Aujourd'hui, en gros, si vous êtes démocrate, vous êtes vacciné troisième dose éventuellement, alors que si vous êtes républicain, il y a des chances que vous soyez anti-vax et anti-masque, etc.
Alors, frein, c'est la résistance au vaccin.
Il y a des résistances au vaccin dans les électorats républicains. Alors pas tous, c'est une fraction importante de l'électorat républicain et réfractaire pour des raisons de libertarisme en fait, de responsabilité individuelle. On ne doit pas me dire ce que je dois faire, etc. Et ça explique en partie le nombre de contaminations et le nombre de morts. Donc comme vous disiez, 820 000 depuis le début.
Mais quand Joe Biden choisit de réduire la durée de l'isolement pour les positifs à la Covid, passer de 10 à 5 jours, est-ce qu'il ne fait pas plutôt le choix de l'économie plutôt que celui du sanitaire, au fond ?
Oui, bah oui, oui, certainement, parce que l'économie, comme je vous le disais, du fait que beaucoup d'écoles sont restées fermées, l'économie a beaucoup de mal à repartir et les parents à aller au travail, et donc c'est pour cela, à mon avis, qu'il a fait ce choix de passer de 10 à 5 jours, un choix qui donc doit être confirmé par les gouverneurs dans les États.
Émile est au standard de France Inter. Bonjour Émile.
Bonjour.
Vous avez une question?
Merci
pour Laurence Nardon.
Ma question est la suivante. Est-ce que monsieur le président Biden et les élus démocrates qui le soutiennent ne sont pas piégés par les grands donateurs des campagnes électorales qui ne veulent pas de réforme sociale?
Laurence Nardon.
Ah oui, bah alors là, c'est l'immense question du financement de la vie politique aux États-Unis. La vie politique coûte très très cher, donc il faut beaucoup de financement. Alors, en ce qui pour répondre à Émile, en fait, on observe que dans les grands donateurs du Parti démocrate, d'abord, il y a des grandes entreprises, et certaines d'entre elles veulent avoir une politique plus sociale. Il ne faut pas croire que toutes les grandes entreprises sont des capitalistes cruels et antisociaux. Enfin, il y a vraiment des boîtes qui veulent aller dans le sens d'une plus grande défense de la classe moyenne et des minorités, par exemple. Et puis, par ailleurs, il y a un second phénomène très intéressant aux États-Unis, enfin, en tout cas, pour ce que j'en sais, c'est les microfinancements par des citoyens lambda qui font des petites donations. Et ça, avec Internet, le crowdfunding, c'est-à-dire les financements collaboratifs, ça marche très bien. Et ça marche très bien aussi chez les républicains, d'ailleurs. Hein, c'est pas uniquement chez les démocrates. Et donc, je crois pas qu'on ait vraiment aujourd'hui, dans le contexte idéologique beaucoup plus social aux États-Unis, en tout cas chez les démocrates, je crois pas qu'il y ait encore de grandes compagnies donatrices qui freinent sur les projets plus sociaux de cette présidence.
Laurence Nardon, il y a eu plusieurs procédures cette année concernant les attaques du Capitole il y a près d'un an. Les partisans de Trump qui avaient voulu empêcher le Congrès de valider la victoire de Biden. La démocratie américaine aujourd'hui, elle est plus solide, elle est redevenue solide après ces attaques?
Ah, alors ça c'est une très bonne question, parce que ça me permet de parler de ce qui à mon avis est un enjeu hyper important aux États-Unis aujourd'hui. Donc autour de la sauvegarde de la démocratie, hein, c'est la question du droit de vote, parce que on voit dans les législatures républicaines, donc dans les États, parmi les 50 États qui sont gouvernés par des républicains, on voit depuis des mois et des mois, peut-être même des années, depuis un arrêt de 2013 en fait. Bref, on voit des lois qui sont passées dans ces États pour rendre un peu plus compliqué l'accès au vote de la part des personnes qui sont les moins aisées, qui généralement sont des minorités qui se trouvent votées démocrates. On voit aussi des redécoupages électoraux qui sont favorables à un camp, c'est-à-dire en gros les républicains plutôt que les démocrates. Il y a là des attaques en germe qui pourront donner leurs effets lors des prochaines élections, donc les élections de mi-mandat de novembre prochain, par exemple, ou même, évidemment, les présidentielles prochaines en 2024. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, de très inquiétant. Le président Biden a préparé des projets de loi pour garantir, remettre en route un accès au vote pour tout le monde. Et là aussi, ben, ces fameux sénateurs modérés, Joe Manchin, pour ne pas le nommer, un sénateur démocrate modéré, mettent là aussi des bâtons dans les roues.
Laurence Nardon, je vais vous demander de répondre par oui ou par non, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que Joe Biden peut remporter les élections de mi-mandat dont vous parliez à l'automne prochain?
C'est mal parti.
Laurence Nardon, merci à vous. Spécialiste des États-Unis, vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'IFRI. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.